Merci d'écouter RFI, un nouveau point sur l'info en direct de Paris où il est 4h.
Mathis Limano.
Le conflit en RDC, le président congolais qui refuse toujours le dialogue avec le M23, Félix Tshisekedi, a annoncé une refonte de l'armée pour renforcer sa riposte contre les rebelles soutenus par le Rwanda. Juste après les titres, on s'intéresse à ces policiers et militaires qui ont dû rendre les armes. Le M23 veut les intégrer à ses effectifs. Voilà 3 ans jour pour jour que la Russie a lancé son offensive contre l'Ukraine. 3 ans de morts, de blessés, de déplacés, les cartes rebattues depuis le retour de Donald Trump. Mis sous pression, Volodymyr Zelensky a proposé de démissionner, mais à une condition, vous l'entendrez. Friedrich Merz veut vite former un gouvernement. Le patron de la CDU en Allemagne, le nouveau chancelier, a remporté hier les législatives. Et puis, le criminel le plus recherché de France, remis aux autorités françaises dans les 30 jours, en pleine cavale, Mohamed Amra a été interpellé en Roumanie. On débute cette édition avec cette conséquence du conflit en République démocratique du Congo. Conséquence de la prise de Bukavu par le M23 soutenu par l'armée rwandaise. Quelques milliers de militaires, combattants, pro-gouvernement et policiers stationnés dans la capitale du Sud Kivu ont rendu les armes. Hier, dimanche, 1 millier de ces policiers sont arrivés à Goma par bateau avant d'embarquer vers le territoire de Rutshuru. Eva Massi.
Ils sont arrivés au port de Goma en tenue de la police nationale congolaise et désarmés. Escortés par les rebelles de l'AFC M23, ils ont été conduits vers le stade de l'Unité, le plus grand stade de football de la ville, pour ce que le M23 a appelé une causerie morale. Parmi ces nouvelles recrues figurent quelques femmes venues parfois avec leur bébé. Selon un responsable du M23, ces policiers vont maintenant recevoir une formation avant de rejoindre leurs nouveaux collègues de l'AFC M23. Il y a également des militaires et des civils, a précisé ce responsable. Nous sommes de la police nationale, formée pour sécuriser la population. Nous venons ici pour ajouter un plus, puis nous rentrerons à Bukavu, a déclaré un de ces policiers qui s'est présenté comme un de leurs porte-parole. Ces enrôlements interviennent alors que des critiques se font de plus en plus pressantes en raison de l'insécurité grandissante, notamment dans les quartiers nord de la ville. Des dizaines de cambriolages la nuit ont été signalés. Samedi soir encore, 2 jeunes au moins ont été tués par des hommes armés.
Eva Massi, service Afrique d'RFI. C'était il y a 3 ans, jour pour jour, quasiment heure pour heure, le 24 février 2022, le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et hier, à la veille de cet anniversaire, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à démissionner en échange d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Déclaration lors d'une conférence de presse à Kiev. Le président ukrainien a aussi cherché à tempérer les attaques de Donald Trump, qualifié par ce dernier de dictateur sans élection. Il a donc ouvert la porte à sa démission, si cela peut aider à faire avancer le processus de paix, Anne Verdaguay.
Volodymyr Zelensky dit ne pas être offensé par les propos de Donald Trump qu'il a traité de dictateur. Quelqu'un serait offensé par le mot dictateur s'il était un dictateur, alors que je suis un président légitimement élu, a-t-il ajouté. Il dit vouloir rencontrer Donald Trump avant un possible sommet entre ce dernier et Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky a aussi mis sa démission dans la balance.
Si l'on parle de la paix en Ukraine et qu'en échange je dois quitter mon poste, je le ferai. Deuxièmement, je le ferai aussi si c'était la condition pour adhérer à l'OTAN. Ma priorité, c'est la sécurité de l'Ukraine aujourd'hui et pas dans 20 ans.
Concernant un possible accord sur l'exploitation des minerais ukrainiens, le président Zelensky a répété qu'il ne pourrait pas y avoir d'entente avec les États-Unis aux conditions posées par Washington, critiquant une nouvelle fois le montant largement surévalué de l'aide fournie par les États-Unis à l'Ukraine, estimée à 500 milliards de dollars par la Maison-Blanche. Une déclaration trompeuse destiné à affaiblir son pays, selon lui. Enfin, le président ukrainien a estimé que pour mettre fin à la guerre, il ne pouvait se laisser gouverner par les émotions, mais qu'il devait agir avec pragmatisme et qu'il était disposé à conclure un accord avec toute personne dite sérieuse.
C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron est en route pour les États-Unis. Le président français va plaider la cause de l'Europe et de l'Ukraine auprès de Donald Trump. Jeudi, ce sera au tour du premier ministre britannique Keir Starmer d'être reçu à la Maison-Blanche. Et à l'occasion des 3 ans ans de la guerre en Ukraine. RFI se mobilise, matinale en partie délocalisée à Kiev ce matin autour d'André Anne-Mellar. Rendez-vous tout à l'heure à 6h10, temps universel. Puis à 7h15, temps universel, place à Arnaud Pontus et ses invités. Ils reviendront largement sur la victoire de la CDU en Allemagne. Le scrutin d'hier, aussi marqué par la débâcle du SPD d'Olaf Scholz et la percée historique de l'extrême droite. Friedrich Merz, appelé à devenir le nouveau chancelier, a brièvement pris la parole après sa victoire et il a bien conscience qu'avec 30% des suffrages, il doit rapidement composer sa coalition.
Nous avons gagné cette élection. Je suis conscient de la responsabilité qui m'incombe. Je sais que ce ne sera pas facile. Il nous faut le plus possible un gouvernement stable. Le monde autour de nous ne nous attend pas. Il n'attend pas le résultat de longues négociations pour une coalition qui n'en finisse pas. Nous devons rapidement être capables de travailler pour nos réformes en Allemagne, pour être présents en Europe et pour que le monde sache que l'Allemagne est de nouveau gouvernée de façon fiable.
Zuverlässig regiert.
Le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz avec Pascal Thibault, correspondant RFI en Allemagne. Il était le visage du Hezbollah durant 3 décennies. L'un des hommes les plus influents de la région au Proche-Orient. Hier, les funérailles d'Hassan Nasrallah ont eu lieu à Beyrouth. Des centaines de milliers de soutiens ont afflué pour rendre un dernier hommage à celui qui est mort dans une frappe israélienne en novembre dernier. Dans un discours retransmis en direct sur les écrans géants de la cité sportive de Beyrouth, lieu des funérailles, son successeur Naïm Qassem a réaffirmé l'attachement du parti chiite à la résistance contre Israël et à la cause palestinienne, Paul Khalife.
Après un vibrant hommage à Hassan Nasrallah, Naïm Qassem a juré de rester fidèle aux principes de son compagnon d'armes et a demandé à la foule immense rassemblée à l'intérieur et autour de la cité sportive de Beyrouth de prêter serment en ce sens. Le chef du Hezbollah a martelé que ses partisans n'abandonneraient pas le choix de la résistance, même si leur maison était détruite sur leur tête ou s'ils étaient tués jusqu'au dernier. Après cette envolée enflammée dans laquelle il a dénoncé la poursuite de l'occupation israélienne de certaines portions du territoire libanais, Cheikh Naïm Qassem a déclaré que le Hezbollah donnerait sa chance à la diplomatie pour obtenir le retrait israélien. La résistance reste notre droit tant que l'occupation persiste et nous déciderons comment l'exercer, a-t-il dit. À ce stade, le Hezbollah privilégie aussi l'option des pressions pour obtenir la libération de la dizaine de combattants capturés par les Israéliens lors des 66 jours de guerre à l'automne dernier. Naïm Qassem a exprimé sa confiance dans l'armée libanaise qui s'est déployée dans le sud du Liban, même si celle-ci procède à la saisie de l'arsenal du Hezbollah dans cette région du pays. Paul Khalife, Beyrouth. RFI.
Israël se dit prêt à reprendre les combats à tout moment dans la bande de Gaza. La première phase du cessez-le-feu est censée prendre fin le 1er mars, mais les négociations prévues pour la suite n'ont toujours pas démarré et la décision israélienne de ne pas relâcher comme prévu plus de 600 prisonniers palestiniens fragilise un peu plus la suite du processus. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou pointe du doigt les cérémonies humiliantes autour des libérations d'otages à Gaza. Le Hamas, lui, dénonce une violation de l'accord de cessez-le-feu. Le feu. L'émissaire américain pour le Moyen-Orient sera cette semaine dans la région. Steve Witkoff entend faire progresser les négociations sur la suite de la trêve. Il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, mais accepte d'être remis aux autorités françaises. Le narcotrafiquant Mohamed Amra, criminel le plus recherché de France. Après 9 mois de cavale, il a été arrêté en Roumanie et devrait être transféré dans les 30 jours, selon son avocate. Mohamed Amra, multirécidiviste, s'était échappé en mai dernier pendant un transfert. Un commando avait attaqué son fourgon, tuant 2 agents pénitentiaires. Ce week-end, 10 complices présumés ont été interpellés en France et ailleurs en Europe. Les précisions, Amélie Beaucourt.
Après son audience avec un juge d'instruction, Mohamed Amra ne reconnaît pas les faits commis, mais a accepté d'être remis aux autorités françaises plutôt que de demander un recours, comme le prévoit la procédure en Roumanie. C'est ce qu'a indiqué son avocate ce dimanche après-midi. Reste au ministère de la Justice français et roumain de déterminer ensemble la date et la logistique de son transfert, qui devrait être organisé dans le mois à venir. Repéré et arrêté la veille par la police locale dans un centre commercial de Bucarest, son identité avait pu être confirmée grâce aux comparaisons raison des empreintes digitales et à la reconnaissance faciale, selon la procureure de Paris. Son arrestation met fin à 9 mois de cavale après une évasion spectaculaire. Un commando d'hommes armés et cagoulés avait pris d'assaut son fourgon pénitentiaire le 14 mai dernier, alors que le véhicule était arrêté à un péage en Normandie. Les enquêteurs poursuivent la traque des complices du fugitif. Dans la nuit de samedi à dimanche, une personne a été arrêtée en Espagne, une autre aux Pays-Bas et 8 autres en France, dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime. Des armes de poing et un fusil d'assaut ont également été saisis.
Amélie Beaucourt, service France, DRFI. Il est presque 4h10 à Paris, 1 heure de moins en temps universel.